Aujourd'hui, on va attaquer tout ce qui concerne l'écologie industrielle, hein, ce que peuvent nous enseigner la biosphère et les écosystèmes pour optimiser l'usage de nos ressources. Et on a vraiment la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Sharon Erckmann, qui est, je veux dire, un des papes de l'écologie industrielle, si on peut parler ainsi. Sharon est philosophe, biologiste, il est professeur associé à l'Université de Lausanne et il dirige l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain. Il a également fondé ou co-fondé l'Institut ROI, Resource Optimization Initiative, à Bangalore, et l'entreprise de conseil SoftYes. Il est responsable du groupe Écologie Industrielle de l'UNIL, donc à Lausanne, et il développe un programme de recherche à l'interface entre sciences naturelles et sciences humaines. Il a écrit le livre dont je vous ai donné le lien sur Internet, donc vers une écologie industrielle. Alors après la présentation de Sharon, nous aurons la présentation de Bernard. Baudouin, qui est un serial entrepreneur et qui a entre autres fondé Nanosteel, Eriplast. Et il vient d'écrire un livre qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle « Le naufrage des économistes, quand les théories conduisent à la crise ». Roland, est-ce que tu pourrais ouvrir derrière ? Voilà. Et donc, il entretiendra de cela. Il est convaincu, comme il l'écrit, que l'écologie est tout simplement l'avenir de l'économie. Donc, à partir de son livre, il partagera avec nous ses expériences aussi qui soutiennent cette idée maîtresse et qui rejoignent tout à fait celle qu'exprimera Sharon. Voilà. Merci à tous les deux et bonne soirée.
Très bien, merci. Tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de partager quelques idées avec vous. Je vais essayer de vous faire un survol de cette approche. Ce n'est pas une discipline, c'est un domaine multidisciplinaire qui émerge depuis à peu près une vingtaine d'années, on pourrait dire, même un petit peu moins, vraiment. J'ai introduit, ce que je ne fais pas toujours, mon public c'est souvent des ingénieurs ou des scientifiques, j'ai introduit quelques éléments plus philosophique, puisque l'association, comme son nom l'indique, s'intéresse à la philosophie et au management. Donc ce sera relativement pas trop technique, même on aurait pu rentrer dans les détails techniques, mais ce n'était pas le but aujourd'hui. Donc vous voyez que j'ai donné un titre qui est tout à fait en lien avec l'idée même aussi que partage M. Dubuisson, qui est l'avenir ou un des avenirs possibles du système industriel. Alors je remettrai volontiers à disposition mes transparents.
Oui.
Vous pouvez circuler librement. Et puis par ailleurs, je commence tout de suite par la documentation, pour ceux qui voudront savoir plus. Alors ça, c'est un ouvrage effectivement qui est une synthèse sur le sujet en français. Alors l'ouvrage est disponible gratuitement sur le site qui est là. Je précise qu'il n'est pas interdit d'acheter de la copie papier. Vous pouvez, c'est autorisé. Mais j'aime bien quand c'est aussi librement disponible, quand vous pouvez sans autre. Alors il y a un autre ouvrage. Effectivement, Laurent a mentionné que j'ai créé un institut, un institut de recherche indépendant basé à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Et nous avons toute une série de publications qui sont disponibles gratuitement sur notre site. Donc, on fait ROI online. Mon partenaire cofondateur m'avait bien dit à l'époque en Inde, personne ne va nous écouter, il faut un slogan qui leur parle. Et donc, ROI, évidemment, c'est Return on Investment. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire Resource Optimization Initiative, initiative pour l'optimisation des ressources. Donc, c'est un institut de recherche qui est vraiment fait de l'écologie industrielle dans le contexte des pays vivant en développement ou en transition. Et là, vous pouvez aussi télécharger librement plusieurs études, rapports, et notamment notre livre qui sont des études de cas dans le contexte indien. Alors, je voudrais commencer par prendre un peu de recul. J'aime bien utiliser cette image qu'on utilise souvent comme symbole d'un système économique très très particulier, c'est le système industriel. Donc c'est le fameux Iron Bridge, qu'on montre souvent comme étant un des symboles du démarrage de la révolution industrielle, où il y avait à la fois deux éléments typiques du système industriel, donc l'élément d'innovation technologique et le risque technologique même. C'est la première fois qu'on faisait un pont entièrement en métal, et il y avait eu beaucoup d'innovations, notamment dans la capacité à faire des moules, qui ont réussi à faire les pièces en métal. Donc il y avait à la fois une innovation technique majeure, et puis en même temps il y avait l'aspect capitalistique, donc le risque entrepreneurial. Il a fallu encore 2 ans pour que les routes d'Axe à ce pont soit opérationnel, mais ensuite, très vite, c'est devenu une très bonne affaire avec l'explosion du trafic de marchandises à cette époque en Angleterre. Donc, je vous montre ça juste pour, en quelques minutes, d'abord, songer au système économique très particulier dans lequel on est, si on prend un peu de recul. Si on regarde les centaines, voire les milliers de systèmes économiques différents que l'humanité a inventés depuis 10 ou 20 000 ans, elle a inventé beaucoup de systèmes économiques très sophistiqués, souvent techniquement très élaborés, que ce soit les Égyptiens, les Grecs, ils avaient des technologies de maîtrise, par exemple, notamment de l'eau, de l'hydrologie, qui étaient très avancées. Les Aztèques, les Mayas, c'était quand même l'économie de la Chine ou de l'Inde ancienne, c'était des économies très élaborées, souvent avancées techniquement, et qui ont souvent duré des milliers d'années. Mais il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier avec ce système industriel. Il y a au moins deux grandes caractéristiques. D'abord, il a quand même apporté un degré de satisfaction, ou un degré de confort et de richesse tout à fait inédit, à notre connaissance, dans l'histoire de l'humanité. Et puis, le corollaire de ça, évidemment, c'est qu'il a aussi apporté des problèmes qui sont tout à fait inédits. Donc, c'est pour bien... peut-être parce qu'on est tellement plongé dedans qu'on ne réalise plus tout à fait ce système économique très bizarre, très étonnant, qui s'appelle le système industriel. Et l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est que si on prend un peu de recul, c'est un système économique qui est ridiculement jeune. Il a environ 202 siècles. C'est rien comparé à tant d'autres systèmes économiques qui ont survécu bien plus longtemps. On a l'air un petit peu ridicule avec notre idée de durabilité par rapport à d'autres systèmes économiques qui ont duré si longtemps. Donc, on peut aussi voir qu'on est tout au début de ce système économique. Et aussi, en termes de développement, c'est en ce moment même, nous sommes dans une phase historique où le système industriel ne s'est jamais autant développé que maintenant. Par exemple, nous vivons en ce moment un boom minier à l'échelle planétaire qui est inédit dans l'histoire du système industriel et de l'humanité. On n'a jamais creusé autant de mines, extrait autant de minerais, et ainsi de suite. Donc, je voulais juste commencer par rappeler la singularité de ce système économique très spécial. Alors maintenant, deux siècles plus tard, en gros, les avis sont assez partagés. Alors, il y a, en Europe, alors ce qui est étonnant, c'est intéressant, c'est que les avis sont très marqués suivant la région. Quand vous êtes en Inde, où je suis souvent, ou en Chine, il y a quand même beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, on en veut encore plus, on va de l'avant, etc. En Europe, il y a plutôt une tendance assez pessimiste. Alors ça a introduit une difficulté que je voudrais juste signaler en passant. C'est que toutes ces problématiques d'environnement sont très souvent marquées d'approches idéologiques, de biais philosophiques plus ou moins avoués. Pourquoi pas, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant au moins d'arriver à les formuler. Je veux juste me donner un exemple. Il y a un petit exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de l'île de Pâques. Il y a un ouvrage qui a eu un succès phénoménal il y a une quinzaine d'années à peu près, d'un géographe américain, Diamond, qui s'appelle L'effondrement. Et notamment, un des premiers chapitres de l'ouvrage donne l'exemple de la disparition des habitants de l'île de Pâques, qui étaient tellement stupides qu'ils ont détruit leurs forêts, ils ont gâté leurs ressources, et donc ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Donc c'est nous, c'est le symbole, nous sommes en train de faire la même chose. Et donc il y a toute une littérature aujourd'hui qui tourne autour de l'île de Pâques, qui dirait que nous sommes en train de faire la même chose. Et ça, c'est assez typique en fait d'un biais idéologique, à mon avis, qui est une certaine forme de catastrophisme. Cela dit, plus récemment, alors il y a tout un groupe, une quinzaine environ d'archéologues, d'ethnologues, d'anthropologues, d'historiens, qui ont repris un à un les arguments du livre de Diamond et qui ont montré qu'il n'y a pas un seul chapitre qui tient la route, si on regarde de manière factuelle et en détail, notamment l'histoire de l'île de Pâques, d'autres explications, notamment liées à la dynamique écosystémique qui pourrait expliquer ça. Ça, c'est un livre beaucoup plus récent, donc qui met en question la théorie du collapse. Et ça fait vraiment bien ressortir cette difficulté aussi à y voir un petit peu clair dans les biais idéologiques, politiques ou philosophiques, qui sont une fois de plus légitimes, mais ça me semble quand même plus intéressant d'en être conscient. Alors maintenant, je reviens à l'écologie industrielle. Ça, c'est ce que j'appelle le grand bazar du développement durable. J'aurais pu encore ajouter plein de choses. Une des caractéristiques du développement durable, c'est qu'il y a eu une prolifération depuis une vingtaine d'années, depuis que le terme développement durable s'est vraiment imposé sur le plan institutionnel. C'est assez normal finalement parce que les différents milieux professionnels se sont appropriés ce concept assez mou, assez vague, et puis ont essayé de lui donner un contenu en fonction de leurs propres intérêts. Donc l'industrie chimique a parlé de responsible care, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable qui regroupe toutes les multinationales. Eux, ils aiment bien parler d'éco-efficacité. Enfin, chaque milieu a proposé sa propre manière de voir. Alors comment est-ce qu'on peut positionner l'écologie industrielle par rapport à ça ? Étant entendu, pour moi, l'enjeu n'est pas du tout de savoir si l'un est meilleur que l'autre, mais en quoi est-ce que ça peut être utile et intéressant et pertinent? Alors, il me semble qu'on peut reprendre les choses un tout petit peu plus en amont. Il me semble qu'avant de savoir comment est-ce qu'on va appeler ceci ou cela, on pourrait d'abord se demander de quoi est-ce que nous avons besoin. Alors, il me semble qu'on a besoin au moins de 3 éléments. Puis après, on peut l'appeler comme on veut. Finalement, c'est secondaire. Il me semble qu'on a d'abord besoin de disposer d'un cadre conceptuel qui soit à la fois large et qui ait une certaine rigueur. Parce que c'est bien d'avoir, par exemple, des approches très pointues, très sectorielles, très spécifiques, mais on voit bien qu'il nous faut une vision assez large. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit trop large, c'est-à-dire un peu comme le développement durable, où on y met tout ce qu'on veut sans compter le reste, donc on ne sait plus très bien de quoi on parle. Donc il faut quelque chose qui soit en même temps large et rigoureux. Alors il me semble qu'un bon candidat, enfin un candidat c'est une hypothèse, c'est pas, pour moi ce n'est pas un dogme, un bon candidat c'est l'écologie scientifique. Donc l'écologie scientifique c'est la science qui, en tout cas en Occident, permet de décrire, de comprendre le fonctionnement des systèmes vivants sur la planète. Donc on fait difficilement plus large, plus intégratif comme approche. Donc c'est d'abord une vision très très large. Mais en même temps, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est une science expérimentale, avec des tests, des mesures, des calculs d'erreurs, mais aussi toute une réflexion théorique, épistémologique et des enjeux philosophiques importants. Donc il me semble que l'écologie scientifique est un assez bon candidat pour servir de cadre conceptuel, à la fois général et rigoureux, pour aborder la question des interactions entre le système industriel, l'humanité au-delà, et la biosphère. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un cadre conceptuel juste pour le plaisir d'avoir un joli cadre conceptuel, c'est évidemment en plus de l'articuler à une stratégie opérationnelle, de mise en œuvre en l'occurrence, de la durabilité ou du développement durable, comme on veut l'appeler. Donc ce qui me semble important, c'est l'articulation de ces deux. Il ne s'agit pas de faire des stratégies opérationnelles comme ça sans savoir où on va, l'idée c'est d'avoir un cadre qui nous permet de guider l'action. Mais le but, c'est quand même bien l'action ici. Et un troisième élément qui est typique, alors que vous êtes certainement très familier ici, c'est ce qu'on appelle les approches systémiques, c'est qu'en plus, on a besoin d'une réflexion et d'une action qui ne concerne pas uniquement la sous-optimisation de telle ou telle partie du système économique, mais on est en train de parler de la transition d'évolution du système économique dans son ensemble. Et ça, ça suppose nécessairement, en plus des relations de compétition habituelles dans le système actuel, ça suppose des stratégies coopératives, collectives à large échelle, qui viennent se surajouter aux stratégies traditionnelles de compétition. L'un n'empêche du reste pas l'autre. Donc on a besoin d'une action et d'une réflexion à l'échelle systémique et structurelle. Donc, la combinaison de ces trois éléments, on pourrait du reste en rajouter d'autres, mais la combinaison de ces trois éléments, c'est ce que j'appellerais l'écologie industrielle. Une fois de plus, si vous n'aimez pas ce terme, si vous préférez l'éléphant rose, pour moi c'est bon, pourvu qu'on soit d'accord sur ce dont nous avons besoin. Il me semble qu'on a au moins besoin de ces éléments-là. Alors, mettons-nous bien d'accord, quand je parle d'écologie industrielle, le terme écologie réfère vraiment à l'écologie scientifique, et même plus spécifiquement, il y a deux grandes branches historiquement à l'écologie scientifique. Il y a l'écologie des écosystèmes et l'écologie des populations. Ils traitent beaucoup plus de la dynamique des populations, c'est beaucoup plus de la statistique, de la modélisation, de la dynamique des populations. Ça fait vraiment plus référence à la compréhension de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes, donc des systèmes vivants complexes. Donc ici, c'est le sens du mot écologie. Et puis le terme industriel, et c'est là où en français, il y a souvent des confusions, parce qu'en français moderne, en tout cas, le mot industriel a un sens étroit, en gros c'est le secteur secondaire. Ici, il est entendu dans son sens originel en français, du reste, et qu'il a encore gardé en anglais américain notamment, industrial ecology. Ça désigne la totalité des activités économiques dans le cadre du système industriel. Donc, l'agriculture fait totalement partie de l'écologie industrielle. Et on peut même dire, on peut même penser que le système agro-industriel, l'agriculture industrielle, est la composante du système industriel qui a le plus gros impact négatif sur la planète, à l'échelle planétaire. Si on inclut l'irrigation, les pesticides, les engrais, la déforestation, etc. Donc l'agriculture fait totalement partie, évidemment, de l'écologie industrielle. Le tourisme aussi, les services, les soins de santé, les loisirs, l'électronique. Évidemment, ça inclut les mines, ça inclut toutes les activités industrielles au sens traditionnel, mais vraiment toutes les activités économiques au sens où elles se déroulent dans la société technologique moderne. Donc l'idée de l'écologie industrielle, c'est de reconceptualiser, d'analyser, de comprendre et ensuite de faire évoluer l'ensemble du système économique industriel à la lumière de l'écologie scientifique, dans la mesure où c'est la meilleure science que nous avons qui nous permet de comprendre les interactions entre l'humanité et la biosphère. Donc il y a deux éléments dans cette idée d'écologie industrielle. Il y a à la fois le bâton, donc les contraintes. l'idée base sous-jacente à l'écologie industrielle, c'est qu'il existe des limites et des contraintes à l'activité économique et que ces contraintes nous sont imposées par le fonctionnement normal de la biosphère et puis derrière, évidemment, par la structure même géologique de la Terre, par les constantes ou les données qui relèvent même, je dirais, de l'astrophysique. Mais ici, plus précisément, c'est les contraintes que nous impose la biosphère, le fonctionnement plus ou moins normal des écosystèmes. Ça, c'est l'aspect contrainte. Ces contraintes, ce n'est pas des dogmes non plus, elles évoluent. Elles évoluent évidemment dans le temps, l'environnement lui-même évolue, la biosphère évolue. Donc les contraintes qui nous sont imposées varient elles-mêmes. Et puis du reste, ça va aussi dépendre les contraintes de la population humaine, de son style de vie, des technologies, etc. Donc c'est quelque chose en évolution permanente. Ça, c'est pour le bâton. Il y a aussi la carotte, évidemment. C'est l'idée que la biosphère peut nous inspirer pour faire évoluer le système économique. Alors on va toucher quelques mots après sur un aspect particulier de l'écologie naturelle qui est le biomimétisme. Mais il y a vraiment ces deux éléments. Il y a à la fois l'aspect contrainte, et il faut reconnaître qu'encore aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler la pensée économique dominante, dans le paradigme des économistes néolibéraux, on est très très loin encore d'avoir intégré la notion de biosphère et tout ce qui va avec. Les processus irréversibles, la thermodynamique, etc. On en est encore loin. Alors maintenant, puisqu'on va faire quelques remarques un peu plus philosophiques, d'un point de vue épistémologique, on voit bien que l'écologie industrielle est une forme d'analogie, et puis du point de vue rhétorique, c'est même une figure de rhétorique bien connue, c'est ce qu'on appelle un oxymoron, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, hein, comme une glace brûlante, etc. On dit écologie industrielle, ça a l'air d'être une contradiction. Si on comprend un peu ce que ça veut dire, on voit que ce n'est pas le cas. Maintenant, on voit bien que c'est une analogie, et donc, comme toute analogie, il ne faut pas non plus la prendre au pied de la lettre. Il est bien évident que les sociétés humaines ne sont pas que des écosystèmes, évidemment, puisqu'il y a toute la dimension non matérielle, culturelle, philosophique, spirituelle, etc. Il n'empêche que toute société humaine, comme n'importe quelle espèce vivante sur Terre, a besoin pour vivre dans certains patterns de flux, de ressources, de matière, d'énergie, et d'une organisation qu'on appelle les écosystèmes. Et donc, l'analogie, elle est à ce niveau-là. Elle est au niveau du substrat matériel et biophysique vital à toute société et à toute économie. Et donc, on fait l'hypothèse qu'il existe une analogie entre le fonctionnement de l'économie et puis la biosphère. Alors, il y a deux grands versants à l'analogie. On peut considérer que l'analogie, alors là, je reprends Aristote, hein, c'est Aristote direct dans le texte, comme il le disait, il y a deux grands versants à l'analogie. Soit on peut considérer l'analogie où on part de l'idée qu'il y a quelque chose qui a un modèle et par analogie on considère qu'il y a quelque chose qui va ressembler à ce modèle, donc le modèle ça va être quelque chose, la réalité extérieure, en l'occurrence la biosphère, puis on va dire on va faire une économie qui est en accord avec cette réalité extérieure. Mais on pourrait aussi considérer, ce qui est beaucoup moins le cas ici, mais on pourrait aussi considérer que l'autre versant de l'analogie, c'est ce qu'on appelle la métaphore. C'est-à-dire qu'on peut décider de parler de l'économie en des termes plus poétiques et métaphoriques, qui cette fois-ci sont plus empruntés à la mécanique, puisque tout le discours économique moderne depuis le XVIIe, XVIe siècle est essentiellement inspiré de la mécanique, et en particulier de la mécanique newtonienne. Du reste, on parle de la machine économique. Enfin, on n'y fait plus attention, mais on charrie encore toute une série de métaphores pour parler de l'économie, alors qu'ici, ça changerait quand même les choses si on commence à pas utiliser d'autres métaphores pour le système économique, qui sont des métaphores qui viennent du vivant. Mais ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est le versant modèle. C'est-à-dire, oui, on considère que la biosphère sert à la fois de contrainte et de modèle à l'activité économique, mais on reste conscient, c'est le même schéma que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on prend un tout petit peu de distance philosophique, et on garde à l'esprit, naturellement, que, un, il n'existe pas d'écosystème dans la nature. Les écosystèmes, c'est la manière dont nous, humains en Occident, depuis quelques décennies, nous conceptualisons le fonctionnement de la nature. Donc, soyons attentifs à ça. Et puis, évidemment, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas le fonctionnement de la biosphère. C'est une schématisation visuelle du concept d'écosystème qui lui-même est récent, 1935. C'est pas très vieux. Le concept scientifique moderne d'écosystème a vraiment été formalisé par Tansley dans les années 30. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Mais enfin, pour le moment, en tout cas dans la science occidentale, c'est ce qu'on a de mieux, à ma connaissance. Alors, toujours pour rester un petit peu dans les aspects philosophiques, si on analyse un peu le paradigme de l'écologie industrielle, il y a quelques éléments qu'on peut faire ressortir. D'abord, il y a être bien conscient que c'est une analogie. Il n'y a pas de mal à ça, du reste. Très souvent, la science progresse ou se base sur des analogies. Simplement, ce qui est important, c'est de voir jusqu'où, quelles sont les limites et les domaines de validité de l'analogie. Maintenant, dans l'idée même de l'écologie industrielle, il faut bien voir qu'il y a un mouvement, en fait, d'artificialisation de la nature. nous sommes pris dans un système économique, mais ça, ce n'est pas le propre du système économique industriel. C'est manifestement le destin de l'humanité, d'autres espèces aussi, tu vois, mais en tout cas, c'est spectaculaire pour l'humanité, de s'arracher à sa condition naturelle et puis d'artificialiser son milieu avec l'invention de cet exosquelette, comme on appelle en biologie, qui sont des outils, et puis d'abord le langage articulé, si on regarde ça sur une longue distance. Donc, nous sommes pris dans un processus où nous artificialisons de plus en plus la nature. Mais c'est de notre nature de faire ça. Et l'écologie industrielle participe tout à fait de ce mouvement-là. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche d'écologie industrielle, en rappelant que l'économie, quelle qu'elle soit, vit sur une planète particulière, qui est la planète Terre, dans une biosphère particulière, qui est la biosphère de la planète Terre, ça nous ramène l'économie sur Terre. Et on va voir, une des bases d'économie industrielle, c'est de tenir compte des caractéristiques des écosystèmes locaux et tenir compte du fait que tout processus économique, quel qu'il soit, a besoin de matière et d'énergie et pas seulement de valeur financière ou de valeur ajoutée théorique. Donc, c'est aussi une manière de ramener le système économique ou la pensée économique dans la nature, dans la biosphère, sur les réalités du terrain. Parce que très souvent, si vous lisez la littérature économique habituelle, on pourrait se dire, mais en fait, le système économique dont on nous parle, il pourrait être sur n'importe quelle autre planète. Il n'a pas l'air d'être propre à cette planète-ci, à cette biosphère. Je vais faire une expérience intéressante. Vous prenez les grands livres de classiques de l'économie, comme le Samuelson, par exemple, Manuel d'économie. Vous regardez dans l'index, il y a le mot matière. Très souvent, vous n'allez pas trouver le mot matière. Alors, c'est juste une mention que oui, on a besoin de matière première, ça intervient sur des paramètres dans le coût. Mais il n'y a pas de mention que toute économie dépend d'un écosystème très particulier, enfin de la biosphère. Alors, aussi, quand on parle d'écologie industrielle, il faut bien voir qu'il y a deux niveaux possibles. D'abord, c'est une manière d'avoir une stratégie d'optimisation du système économique en lui-même. Et la plupart du temps, en fait, quand on parle d'écologie industrielle ou d'approche de l'environnement, en fait, c'est ça. C'est une manière de rendre le système économique encore plus performant, encore plus efficace. Et donc, c'est une stratégie d'optimisation à l'interne du système économique, si on veut. Alors, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'en arrière-plan, il y a l'idée que ce qu'il s'agit, c'est de mettre en place une stratégie de coévolution non destructive avec la biosphère. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut très bien optimiser le système économique en lui-même pour qu'il consomme de manière de plus en plus intelligente la matière et l'énergie. Ce n'est pas pour autant qu'il sera compatible avec la biosphère. Donc, il faut vraiment bien tenir compte des deux éléments et des deux niveaux d'action, de réflexion et d'intervention. Une manière d'illustrer ce propos, quand je parlais uniquement de l'optimisation du système industriel, souvent on réduit, à tort à mon avis, parfois à l'économie industrielle, l'idée il s'agit simplement d'utiliser les déchets comme des ressources, comme on le constate dans les écosystèmes. Alors évidemment, mais ça c'est une petite partie. Mais ça en tant que tel, c'est pas, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ça c'est un livre par exemple que j'ai trouvé qui date de 1920, publié à Londres, qui s'appelle Faire des millions à partir des déchets. C'est une analyse très intéressante par un journaliste anglais de l'économie allemande au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il dit, attention, l'Allemagne est en train de reconstruire très rapidement une industrie très performante, notamment parce qu'ils savent très bien valoriser tous leurs déchets. Mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec l'écologie industrielle. Ça, c'est vraiment de l'optimisation d'ingénierie industrielle tout à fait raisonnable, du reste. Mais la différence, c'est que si on le fait dans la perspective d'écologie industrielle, on va toujours avoir en arrière-plan l'écologie scientifique qui va nous dire oui, on peut réutiliser les déchets comme des ressources, mais pas n'importe lesquelles et pas dans n'importe quelles conditions. Sinon, on pourrait dire que les petits malins qui ont une fois l'idée de donner à manger au bétail des farines animales, ils faisaient de l'écologie industrielle, bien sûr que non. Au contraire, s'ils avaient eu avec eux un écologue industriel, ils auraient commencé par leur rappeler que dans les écosystèmes, en principe, les herbivores ne mangent pas de viande. Et donc, ils voudraient faire attention avant de faire des chaînes alimentaires aberrantes. Alors que là, ils étaient dans une logique purement, en fait, minimisation des coûts. Apparemment, c'était intéressant de faire des farines animales non thermisées, non chauffées. Et donc, ça a donné la catastrophe qu'on connaît. Donc, ce qui est important, c'est de garder en arrière-plan ce cadre conceptuel d'écologie scientifique, qui souvent est latent, non formulé, mais il est toujours là. Alors, juste deux mots sur une approche dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, qui est ce qu'on appelle le biomimétisme. Là encore, on voit que la plupart du temps, le biomimétisme, c'est-à-dire l'idée de s'inspirer du vivant, des principes du vivant, pour modéliser, pour mettre en œuvre des nouveaux produits, des nouveaux services, ou pour le fonctionnement de l'économie, la plupart du temps, de nouveau, il s'agit d'une stratégie de sous-optimisation de l'économie. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est en arrière-plan, ça serait quand même aussi la capacité que le système économique, qu'il soit bio-inspiré ou non, reste compatible avec la biosphère. Et alors, une des difficultés... je l'ai mentionné au début à propos du collapse des sociétés complexes, c'est qu'il y a très souvent dans le biomimétisme un aspect assez idéologique, c'est-à-dire très souvent il y a une présomption d'innocuité. C'est-à-dire à partir du moment où on dit que c'est naturel, en gros, donc c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Je pense que pas du tout, ça se discute, c'est à voir. C'est pas parce que quelque chose est bio ou que quelque chose est naturel ou inspiré de la biosphère que forcément ça va être bon pour l'environnement ou bon pour les écosystèmes. Alors là, il y a un peu un risque, un danger qui est lié au marketing. Alors, vous connaissez tous la mode du vert, du bio, du bio inspiré. Il y a un risque, parce que le risque est que ça décrédibilise l'approche qui, sur le fond, est intéressante. Un cas, me semble-t-il, extrême, c'est par exemple l'ouvrage Natural Capitalism, justement, où on voit très bien que c'est une opération idéologique. C'est-à-dire, en gros, l'idée, au lendemain, c'est du reste pas un hasard si c'est paru pas très longtemps après la chute de l'URSS, dans un monde globalisé avec le capitalisme triomphant, ce qu'on nous explique, c'est que le capitalisme, c'est naturel. Donc il n'y a plus à discuter, il n'y a pas d'alternative. C'est la nature, en gros, c'est la nature qui nous impose le capitalisme. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, c'est naturel. On voit bien que c'est une opération idéologique politique, pourquoi pas, on a le droit. Mais simplement, ce n'est pas ce que j'appellerais une approche scientifique. Et consciente de ses biais. Hein. Donc il faut être attentif à ça. Maintenant, quelques mots aussi sur l'histoire. Il me semble que, du point de vue historique, il y a une double généalogie à cette approche de l'écologie industrielle. Il y a une première ligne de pensée, une première généalogie qui provient, évidemment, puisqu'il y a le mot écologie industrielle, qui provient de l'écologie qui est écosystémique, donc de l'étude des écosystèmes. Donc ça a des racines qu'on peut trouver jusque dans les années 30, 40, quand vraiment cette notion d'écosystème, couplée du reste à des pratiques expérimentales, à des études expérimentales, a pris forme. Et puis, il y a eu la convergence avec une pensée qui, elle, on remonte facilement au 19e siècle, c'est-à-dire au début de la révolution industrielle, qui est vraiment l'approche des ingénieurs. Comment on optimise le système économique? Alors, je vous montre un article de George Evelyn Hutchinson, qui est un des grands noms de l'écologie scientifique au 20e siècle. Notamment, c'est un des premiers qui avait étudié à fond les écosystèmes lacustres, les écosystèmes d'eau douce, qui ensuite ont beaucoup servi de modèle pour développer les théories des écosystèmes. Là, il a un article de 1948 où il réfléchit sur ce qu'il appelle, j'ai mis en rouge, l'anthropogéochimie de la vie culturelle, c'est-à-dire les sous-bassements biosphériques, biochimiques de l'espèce humaine, où on voit que le concept d'écologie industrielle est tout à fait sous-jacent, il est là. Il n'utilise pas le terme, mais on voit que dans la littérature scientifique des écologues, on trouve sous-jacent, latent, parfois énoncé explicitement, cette idée que le système économique, en particulier industriel, est un cas particulier d'écosystème. Et donc, on peut l'analyser à l'aide des concepts de l'écologie scientifique. Alors, il faudrait évidemment, puisqu'on est à Bruxelles, que je vous dise deux mots de cet ouvrage, que vous connaissez bien M. Dubuisson, puisqu'il les connaissait, l'équipe. Il y a eu plusieurs tentatives tout à fait sporadiques et isolées. J'en ai repéré plusieurs, comme ça, et alors, puisqu'on est à Bruxelles, je vous mentionne celle-là, qui a bientôt 30 ans, du reste. C'est un groupe, c'est un think tank basé à Bruxelles, le CRISP, qui existe toujours, sauf erreur, qui réunissait un groupe de il y avait biologistes, microbiologistes, économistes, etc., qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont le discours économique classique décrit l'économie, et il a rédigé, il a inventé dans son coin tout seul la notion d'écologie industrielle, et c'est un ouvrage tout à fait intéressant, avec une actualité alors brûlante, puisqu'il y a eu la décision de fermer la partie chaude de l'acierie ArcelorMittal. Il y a toute une analyse de la filière de l'acierie belge où il montre bien que c'est des puits ouverts et donc qu'ils ne sont pas durables, que ce n'est pas viable, etc. C'est une analyse qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. Alors, il y a eu différentes tentatives comme ça sporadiques, mais il n'y a pas vraiment eu de suite. Il y a un cas que je connais où il y a eu une suite, c'est le Japon. Ça, c'est un rapport officiel du gouvernement japonais qui est paru quelques semaines avant le premier choc pétrolier. Là, je dois dire qu'ils avaient eu le nez creux. À la fin des années 60, le Japon a constaté qu'il y avait quand même eu des impacts inacceptables du développement industriel très rapide. Et le MITI, le fameux ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, a lancé une grande réflexion en 70, a commencé à lancer plus différents groupes de travail. Et une des conclusions dans les groupes de travail, c'était qu'il faut remodéliser le système industriel en s'inspirant et en respectant les limites que nous impose la biosphère. Et alors, en l'occurrence, cette réflexion a abouti au lancement de plusieurs grands programmes technologiques dès les années 70, qui ont abouti notamment à des grands programmes qui existent toujours encore aujourd'hui d'investissement dans les énergies renouvelables, etc. Et ça, ils l'ont fait juste avant le choc pétrolier, c'était bien vu.
Alors, on a eu comme ça ces tentatives plus ou moins sporadiques qui n'avaient pas vraiment eu de lendemain, comme le groupe de Bruxelles. Ils étaient stupéfaits quand, moi, 20 ans plus tard, je les ai recontactés en disant « Mais est-ce que vous savez qu'il y a tout un mouvement ?»« Ah ben non, vous êtes trop au courant, enfin, etc. » Enfin, maintenant, je suis en contact avec certains d'entre eux. Alors, les choses ont tout d'un coup pris corps. La mayonnaise a pris tout d'un coup au tout début des années 90. Avec un article, c'est souvent comme ça, il y a un article qui a mis le feu aux poudres, qui ne contenait rien de nouveau du point de vue conceptuel. Tout avait déjà été dit de manière isolée, sporadique, soit par des écologues scientifiques, soit par d'autres penseurs, d'autres chercheurs. Mais c'est un article dans une revue bien connue qui s'appelle Scientific American, c'est le plus grand mensuel de vulgarisation scientifique, traduit en français sous le nom de Pour la science. En 89, tout le monde était en train un peu de préparer le premier sommet de la Terre à Rio. Donc tous les milieux commencent à réfléchir qu'est-ce que c'est que cette histoire de développement durable, etc. Et donc ils ont fait un numéro spécial sur la gestion de la planète Terre. Et là-dedans, il y a un article de deux auteurs, Frosch et Galopoulos. Alors, il se trouve qu'à l'époque, c'était deux cadres supérieurs de General Motors. Et je vous rappelle qu'il y a 20 ans, aujourd'hui tout le monde rigole quand on parle de General Motors, mais il y a 20 ans, c'était l'entreprise une des plus respectées de la planète. C'était l'exemple, c'était la plus grande entreprise industrielle de la planète. Donc, le fait que ce soit deux auteurs comme eux, cadres supérieurs de General Motors, qui disent, qui reviennent avec cette idée en disant il faut maintenant repenser l'activité économique à la lumière de l'écologie scientifique, ben, le moment était prêt. Alors que du point de vue du contenu, les idées étaient déjà là. Il n'y avait rien de nouveau. Hein. Finalement, ce qui est important, c'était que ça arrive au bon moment, et c'est arrivé au bon moment. Je veux dire quand même juste que Robert Frosch, alors certes, un ingénieur, une longue carrière aux États-Unis, d'abord dans les grandes agences de la défense, il a été administrateur de la NASA avant d'être là, mais il a aussi été le premier vice-directeur, directeur adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc il avait quand même été déjà sensibilisé à la question des écosystèmes et de l'environnement dès les années, dès 1973, lorsqu'a été créé le programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, cet article a commencé, ça a fait tilt à pas mal de gens, dont moi, donc très vite je suis entré en relation avec eux, puis on était comme ça un petit groupe de gens qui avons commencé à réfléchir là autour. Puis après, alors c'est de la sociologie de la diffusion des connaissances, il y a notamment un consultant en management qui travaille avec les entreprises qui n'a rien fait d'autre que de réécrire l'article de Frosch et Galopoulos. Il n'y avait rien de nouveau sur le fond, mais il l'a réécrit dans le jargon du business en mettant des schémas avec des dollars par-ci, des dollars par-là, en montrant que c'était profitable, etc. Et puis ça a été le départ d'une espèce d'engouement à partir de 1993 dans les milieux des grandes entreprises aux États-Unis, puis après ça s'est petit à petit diffusé. Puis pour aller vite, en 97, avec des membres de ce petit groupe, on a fondé le Journal of Industrial Ecology, et puis quelques années plus tard, on a créé l'International Society for Industrial Ecology, qui fait que l'écologie industrielle maintenant est vraiment un domaine reconnu avec ses publications, ses groupes de recherche dans les universités, etc. Juste attirer votre attention évidemment sur une dérive possible d'écologie industrielle, c'est que ça soit récupéré, c'est-à-dire qu'on en fasse de l'éco-blanchiment, de greenwashing. Ça, c'est un bon exemple. J'ai trouvé cette revue de 1970, volume 1, numéro 1, qui s'appelle Écologie industrielle. Alors, de quoi s'agit-il ? En 1970, c'était les tout premiers ministères de l'environnement. Il faut oublier que ce n'est pas très vieux, les ministères de l'environnement. Et aux États-Unis, il y a un débat qui faisait rage. Est-ce que les États-Unis doivent avoir une agence de protection de l'environnement ou pas ? Et beaucoup de milieux étaient farouchement opposés, dont certains grands milieux industriels, évidemment, assez polluants. Et entre autres actions de lobbying, ils ont lancé cette revue pour montrer qu'en gros, eux, ce qu'ils font, de toute façon, c'est de l'écologie. Donc, il faut arrêter. On n'a aucun nul besoin d'une agence spécialisée. Donc, ils ont perdu, puisqu'on a créé la fameuse USEPA 2 ans plus tard. Mais là, c'est un exemple typique d'utilisation abusive de l'expression. Hein. Donc, on peut aussi être confronté à ce genre de choses. Il faut être attentif pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, ça, c'est une citation un peu longue. D'habitude, j'aime bien avoir des transparents avec peu de mots lisibles. Mais quand même, puisqu'il y a un thème un peu philosophique ce soir, je trouve que... On présente parfois l'écologie industrielle comme étant purement une affaire d'ingénieurs. À mon avis, pas du tout. Hein. Il y a à la fois, effectivement, l'héritage de la généalogie ingénieur. On met les mains dans le cambouis et on regarde comment, non d'une pipe, on peut transformer le système industriel pour que l'aventure continue. Mais il y a aussi le mélange avec toute la filiation écosystémique. Et je trouve qu'il résume très très bien, Christopher Lash, qui a un ouvrage vraiment intéressant, il résume très très bien quand il dit que l'écologie est l'exemple même d'une attitude exploratrice et non pas d'une attitude manipulatoire et on est dans une position de pouvoir. Ici, on est dans une position de coopération, d'exploration, mais pas dans une attitude faustienne ou de pouvoir qui veut dominer, maîtriser, voire détruire. Donc, il y a cette double composante dans l'écologie industrielle. Il y a cette composante opérationnelle où on veut faire des choses, mais en même temps, il y a la composante écosystémique qui, elle, reconnaît qu'on n'est pas les maîtres absolus à bord. Et donc, il s'agit vraiment de coévoluer avec l'aviation.
Je conclue un peu toute cette partie un peu philosophique, on en reviendra en conclusion, puis vous m'arrêtez quand ça devient trop long aussi, vous me dites. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on veut faire de l'écologie industrielle? Alors, il y a deux grands volets. Il y a un premier aspect qui est scientifique, analytique. On cherche à comprendre comment fonctionne ce système économique assez bizarre. Donc on mesure, on évalue, on analyse, on quantifie, etc. C'est l'aspect descriptif scientifique. Ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de passer à l'étape suivante, qui est l'aspect opérationnel, entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait évoluer le système économique à différentes échelles?
Alors, on va voir quelques exemples, mais je vais surtout m'arrêter un petit peu sur ces deux méthodologies.
Il y a deux méthodologies de base qu'on peut regrouper sous le chapeau général de l'écologie industrielle qui se sont développées à peu près en même temps, mais sous cette ombrelle générale. Il y a premièrement l'analyse du cycle de vie qui, elle, évalue les impacts potentiels. C'est important, hein, potentiel, ce n'est pas les impacts réels, parce qu'on n'aurait pas les moyens de mesurer les impacts réels, mais on évalue a priori les impacts potentiels d'un produit, d'un service, de n'importe quel processus économique sur la santé humaine et sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, life cycle analysis. Et l'autre, et je vais décrire un petit peu plus en détail le deuxième, je vais passer très vite sur le premier, c'est ce qu'on appelle le métabolisme industriel. On simplifie souvent en parlant de material flow analysis, analyse des flux de matière, et sous-entendu d'énergie. Où on étudie systématiquement les flux et les stocks de matière et d'énergie.
Donc, l'analyse du cycle de vie, comme son nom l'indique, c'est une approche qui est assez différente de l'approche traditionnelle. On se focalise que sur l'étape de production, par exemple, d'un produit.
Ici, on va s'intéresser à la totalité du cycle de vie. Je pense que vous connaissez ça. C'est quelque chose qui commence quand même à être aujourd'hui bien intégré, bien mis en œuvre, où on s'intéresse à toutes les étapes qu'un produit. Et puis, on s'intéresse à toute une série d'impacts. Alors aujourd'hui, l'impact dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est l'impact sur les changements climatiques. En général, on prend un indicateur qui sont les émissions de CO2 équivalent. C'est un indicateur d'un impact présumé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'impacts qu'on peut prendre en compte. Il y a l'eutrophisation des eaux, l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, etc. Donc l'idée, c'est d'analyser toute une série d'impacts des activités économiques. Il ne s'agit pas de se restreindre à un seul impact. Ça peut même être le bruit, la radioactivité, l'ozone, évidemment, etc., etc.
Je passe très vite. Ça, c'est l'analyse du cycle de vie. Mais c'est important parce qu'elle nous permet de quantifier, avoir des ordres de grandeur, et de quantifier de manière aussi précise que possible où sont les impacts principaux, à quelle étape du cycle de vie d'un produit ou d'une activité économique.
Vous avez certains produits qui ont beaucoup d'impact au moment de leur fabrication, d'autres qui ont beaucoup d'impact au moment de leur utilisation, d'autres au moment de leur fin de vie. Et donc, ça dit notamment aux entreprises où est-ce qu'il faut agir, où est-ce qu'on agit le plus efficacement. On quantifie et on sait où sont les priorités. Ça, c'est une chose. Mais je vais vous dire quelques mots un peu plus en détail sur l'approche du métabolisme industriel. Ça, c'est le cadre général. Ça a l'air tout simple, ça, mais je pense quand même que par rapport à la pensée économique classique, c'est une hérésie, ça. Parce que dans la pensée économique classique, quand même, on s'intéresse essentiellement aux flux immatériels de valeur. Ici, maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la quantité de matière et d'énergie qu'il y a sous toute création de valeur, quelle qu'elle soit. Je suis toujours preneur si quelqu'un peut me donner un contre-exemple d'une création de valeur qui n'aurait aucun flux de matière d'énergie derrière. J'en connais aucun, quel qu'il soit. Si ce n'est pas direct, en tout cas, ce sera indirect. Donc maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui rentre dans le système économique, tout ce qui en ressort et tout ce qui circule. Et ensuite, l'idée, c'est de voir comment on peut améliorer tout ça pour minimiser l'impact sur l'environnement et puis améliorer l'usage des ressources. Et là-dedans, on inclut, par exemple, quelque chose qui n'apparaîtra jamais dans les statistiques économiques, tout ce qu'on appelle les translocations. Quand on bouge à la surface de la planète des immenses quantités d'eau pour faire de l'irrigation, trop souvent c'est vendu à personne, c'est pas vendu, ça n'a pas de valeur, parce que c'est subventionné indirectement, mais c'est pas vendu, donc ça ne va pas apparaître comme quelque chose qui a une valeur économique. Quand on creuse des tunnels, quand on creuse des mines, qu'on fait des immenses montagnes de minerais, de résidus miniers, tout ça, ça n'a pas de valeur, mais ça a un impact environnemental important. Ici, on va le comptabiliser. Donc ici, l'unité, c'est le kilo, la tonne ou le gramme, et puis le joule pour l'énergie. Donc on a des unités physiques. On cherche à comprendre les fondements biophysiques de l'activité économique. Alors maintenant, comment vous faites? Vous prenez n'importe quelle activité économique et vous regardez ce qui rentre, ce qui sort. Et tout ça, ça se base sur un principe que vous connaissez bien, qui est le premier principe de la thermodynamique, qu'on appelle aussi le principe de Lavoisier, conservation de la masse et de l'énergie. Alors, il y a une conséquence importante de ça. Je ne sais pas s'il y a des experts de la comptabilité financière parmi vous. C'est qu'avec la comptabilité physique, comme on commence à l'appeler aussi, il y a une grande différence par rapport à la comptabilité traditionnelle, c'est qu'on ne peut pas tricher.
parce que premier principe thermodynamique, il y a conservation de la masse et de l'énergie. S'il y a une tonne de quelque chose qui entre dans une entreprise ou dans un processus thermique, il y a obligatoirement une tonne qui en ressort. Si on nous dit qu'il y a moins qui en sort, il y a quelque chose qui ne joue pas. En général, il y a un stock qui s'est accumulé, par exemple. D'accord. Mais l'un plus l'autre doit être absolument équivalent. On ne peut pas être créatif comme en comptabilité financière. On peut décider que des pertes, c'est des bénéfices futurs. Enfin, on peut parler pas de choses. Hein. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. Non. Alors là, on ne peut pas tricher, en tout cas pas longtemps avec ça. Exemple, vous pouvez faire le métabolisme industriel d'une activité hautement industrielle qui est prendre une douche. Donc, vous pouvez le faire évidemment pour un produit, vous pouvez le faire pour un process à l'échelle de la planète, d'un pays, d'une entreprise, mais vous pouvez aussi le faire pour une activité quotidienne comme, prenez l'exemple, de se laver. Je dis que c'est une activité hautement industrielle, si vous réfléchissez à toute la complexité du système technologique qu'il faut pour vous amener de l'eau purifiée, qu'on a pompée, qu'on a mis sous pression dans un réseau, avec des compteurs, et puis on vous l'amène, puis on vous la chauffe, on vous l'amène dans votre douche, puis ensuite en aval, il faut la traiter dans des stations d'épuration. C'est une activité très très hautement industrielle. Enfin, donc, ben, vous pouvez faire. Alors ici, il y a une hypothèse très très optimiste. Ici, vous voyez, j'ai fait l'hypothèse que le processus, en l'occurrence, est efficace à 100%. Je vois que toute la saleté part. Donc, si vous faites le total de la saleté, de l'eau et du savon, ben, vous verrez que vous avez exactement le même total. Donc ça, c'est le processus idéal, efficace à 100%. En réalité, il faut introduire ce qu'on appelle des coefficients de transfert, c'est-à-dire qu'en réalité, une bonne partie de la saleté, elle reste sur le rideau de douche ou sur le rideau de la salle de bain. Donc, il y a un stock qui s'accumule, etc. Donc, on peut modéliser tout ça, faire de la modélisation dynamique pour un produit, un process, une entreprise, un groupe d'entreprises, un pays, l'échelle de la planète, etc. Donc ça, ça se développe beaucoup maintenant. Alors, ensuite, on peut faire des applications spécifiques de cette méthodologie. Alors, c'est comme ça qu'on peut faire l'empreinte carbone, comme on l'appelle. Ou alors l'empreinte maintenant qui est en train de venir plus à la mode, c'est l'empreinte hydrique. Donc ici, au lieu de mesurer tous les flux de matière d'énergie, on se concentre sur la mesure d'un flux, parce que c'est ça qu'on veut faire ressortir. Alors ici, ben, c'est les flux d'eau. Alors on s'aperçoit, comme toujours, que les flux très très importants sont en amont, là où le consommateur ne les voit pas. Donc c'est toute l'eau qu'il faut en amont pour faire cultiver le café, pour nettoyer les machines qui vont servir à torréfier le café, etc., etc. Ce qui fait que derrière une tasse de café, vous avez au minimum 140 litres d'eau. Et puis derrière un hamburger, vous avez au minimum 2000 litres d'eau, parce que toute l'eau qu'il a fallu pour irriguer le blé ou le maïs qui va nourrir le bétail, qui va faire le hamburger, etc., etc. Et puis maintenant, l'empreinte, l'autre empreinte qui va venir, dont on ne parle pas encore, après l'eau, après l'empreinte hydrique, ça va être l'empreinte azote, manifestement. Et il y en aura peut-être encore d'autres qui vont venir. Mais là où il y a une échelle très intéressante où on fait cette nouvelle comptabilité physique, c'est l'échelle régionale. Alors, il y a 10 ans, j'avais fait des suggestions qui ont résulté dans l'incorporation de la notion d'écologie industrielle dans la loi du canton de Genève. Le canton de Genève a son parlement, etc. Donc, il a passé une loi dans laquelle il y a une base légale maintenant d'écologie industrielle, ce qui fait que du coup, il y a des études financées par l'État qui ont commencé. Et la première chose qu'on a fait, c'est évidemment de faire une étude du métabolisme du territoire genevois pour savoir cette économie, qu'est-ce qu'elle consomme comme ressources et comme matière, comme énergie, et donc où est-ce qu'elle pourrait évoluer pour devenir d'abord moins dépendante de certaines importations, etc., etc. Donc nous sommes en train, avec mes collègues du bureau que j'ai créé à Genève, nous sommes en train de faire exactement le même genre d'études sur toute la Wallonie, dans le cadre du plan Marshall Vert. Donc le ministre Marcourt nous a mandaté pour faire cette étude, c'est en cours, de métabolisme complet de la Wallonie. L'idée étant, évidemment, après de pouvoir détecter à la fois des nouvelles opportunités économiques, et Dieu sait si c'est important sur un territoire comme celui-là, mais en même temps, évidemment, de limiter les impacts sur l'environnement, d'être plus efficace en usage des ressources, etc. Vous pouvez faire le total, ici, vous aurez de nouveau un total qui est identique à ce moment, à la variation de stock près, donc comme on construit des immeubles, on construit des routes, on agrandit l'aéroport, etc. Donc, on est en train de construire des stocks dans le système industriel, et ça on n'est souvent pas très conscient de ça. Nous sommes en train de construire à l'échelle de la planète des stocks gigantesques, essentiellement de bâtiments, avec des métaux dans ces bâtiments. Et un jour, il faudra gérer tout ça quand ces stocks arrivent en fin de vie. Donc, on n'a encore rien vu du point de vue des déchets, du point de vue du volume, en tout cas, des déchets. Il y a une échelle très, très intéressante. Ah, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai rédigé pour l'État de Genève une brochure que vous pouvez télécharger gratuitement, disponible en français, anglais et chinois, pour ceux que ça intéresse. Donc, vous allez simplement sur l'État de Genève, onglet métabolisme, et vous pouvez télécharger cette brochure qui présente les grands résultats. Juste une chose, par exemple, ça nous a permis de voir qu'à Genève, il y avait un gros problème avec les matériaux de construction, qui est le plus grand flux de matière après l'eau. Et quand ici, l'eau, ce n'est pas l'eau de pluie, c'est vraiment l'eau qu'on a pompée, qu'on a mis dans le réseau. Donc, c'est l'eau qui a une valeur économique. Mais le plus grand flux, c'est les matériaux de construction. Et on s'est aperçu qu'à Genève, il y a un gros sérieux problème parce qu'il n'y a plus de gravier. On n'a plus accès au gravier. Donc tout ça a pris 10 ans. Ça a abouti à la mise sur pied de tout un programme qui vise à réutiliser les graviers des bâtiments qu'on démolit pour construire des bâtiments neufs. L'idée est simple, la mise en œuvre n'est pas du tout triviale. Mais enfin, ça aboutit vraiment à des choses très, très concrètes. Alors, l'échelle à laquelle se développe beaucoup cette méthodologie de métabolisme, c'est l'échelle de la comptabilité nationale. Et là, il y a des enjeux politiques assez importants, me semble-t-il. Ça, c'est un mandat qui a été donné à l'OCDE en 2003 par le G8. Il a dit, nous avons besoin de développer des nouveaux indicateurs de l'activité économique, ce qu'on appelle précisément l'activité physique. Donc l'OCDE a élaboré, ici c'est simplifié, une méthodologie harmonisée entre tous les pays de l'OCDE, et en principe la plupart des pays européens maintenant devraient faire ça, pas encore tous mais ça vient, et où on a, en complément de la comptabilité nationale financière, on a la comptabilité physique qui nous dit qu'est-ce qu'on consomme comme matière énergie, et puis est-ce que c'est viable ou pas à long terme, etc. Et vous connaissez tous toute la discussion sur les indicateurs, notamment toutes les critiques qu'on adresse à l'indicateur du produit intérieur brut, qui n'est pas satisfaisant, etc. Alors, il est en train de se mettre en place toute une série de nouveaux indicateurs basés sur la comptabilité physique qui viennent complémenter l'indicateur traditionnel du PIB. Alors, ces indicateurs se passent très très vite. Vous avez notamment le PMR, qui est la demande totale en matière, c'est-à-dire tout ce qu'on consomme comme matière pour faire fonctionner l'économie. Le DMI, c'est l'input direct de matière. C'est la quantité de matière qu'on voit dans le pays, celle qui est importée telle qu'elle et qu'on extrait du pays lui-même. Alors je passe assez vite, vous pouvez lire ça tranquillement, mais ce qui est pour retenir, c'est qu'il y a un processus politique international qui est en train petit à petit d'imposer des nouveaux indicateurs, et c'est surtout les Japonais qui avaient poussé là derrière au départ. Et l'idée, c'est aussi qu'on va de plus en plus évaluer la compétitivité des économies nationales en fonction de l'efficacité avec laquelle elles utilisent les ressources. Pas seulement leur capacité à faire du PIB, mais à faire du PIB avec des indicateurs complémentaires qui montrent qu'on fait plus de PIB, mais avec moins d'énergie et moins de matière. Et le jour où on va commencer, ce qui est quand même une tendance, à introduire de plus en plus des taxes, on commence par le carbone un jour ou l'autre à l'échelle internationale, sur les matières premières, ben évidemment, plus les économies auront réussi à s'affranchir d'une consommation de matière d'énergie, moins ils seront pénalisés, évidemment. Donc là derrière, il y a des enjeux politiques, économiques extrêmement importants. Alors, je n'ai pas encore trouvé les chiffres à l'échelle de toute la Belgique, je n'ai pas encore vu cet exercice fait. On est en train de le faire pour la Wallonie, mais en tout cas, je ne le connais pas pour toute la Belgique. Alors, pour la Suisse, en revanche, ça se fait par l'Office fédéral de la statistique. Ben, typiquement, on arrive à environ 15 tonnes par habitant par année de consommation directe de matière. Et c'est surtout, comme vous voyez, des minéraux, c'est-à-dire des matériaux de construction. Et puis après, évidemment, il y a la biomasse, les métaux, etc. Ça représente, en gros, un camion de béton par personne par année. Mais maintenant, si on inclut ce qu'on appelle les flux indirects, les flux cachés, c'est-à-dire, quand vous importez une voiture en Belgique, derrière la tonne d'acier, il y a plusieurs dizaines de tonnes de déchets miniers quelque part, lorsqu'on a dû extraire le fer au Brésil ou en Afrique du Sud. Et si maintenant on inclut tous ces flux qu'on appelle indirects ou cachés, c'est ce qu'on appelle le TMR, la demande totale en matière, on parle plus de 15 tonnes, on parle de 42 tonnes par personne. On peut estimer que la Suisse et la Belgique, ça doit être à peu près le même ordre de grandeur. Ça doit être des chiffres assez similaires. Hein. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez que ces flux sont considérables, en fait. Et puis, un élément très important, c'est justement cette histoire du flux caché. Par exemple, si vous avez une alliance en platine, ben, elle pèse 4 grammes. Mais derrière ces 4 grammes de platine, vous avez l'équivalent d'un camion de 5 tonnes de déchets miniers. Ce que vous ne voyez pas, parce que c'est quelque part en Afrique du Sud, en Sibérie, etc. Maintenant, la question ici qui est à la fois technique et très politique, c'est comment est-ce qu'on alloue ces flux ? À qui on est ? Alors, le principe qui a valu jusqu'à aujourd'hui, c'est le principe de territorialité. C'est exactement ce qu'on fait avec le carbone. Donc, les pays émettent le carbone, on fait la comptabilité en fonction de là où il est émis. Mais les pays comme la Chine disent, mais à juste titre, ils disent, non, mais attendez, on émet beaucoup de CO2, d'accord, pour faire fonctionner nos centrales électriques au charbon, mais c'est quand même pour fabriquer des habits qui sont consommés chez vous. Donc, on devrait quand même allouer ces flux de CO2 à vous. Et puis, pas que le CO2, le fer, le métal, le chrome, le phosphore, le zinc, etc. Voilà. Alors, il y a une discussion qui est lancée depuis quelques années. Techniquement, ce n'est pas facile à faire, mais surtout, l'enjeu est très politique. Hein, c'est-à-dire, à qui est-ce qu'on va faire porter, en quelque sorte, la responsabilité, je ne dis pas la culpabilité, mais la responsabilité des flux de matière et d'énergie. Donc, c'est toute cette problématique des flux indirects ou des flux cachés, la manière de les calculer, de les estimer et de les allouer. Maintenant, je parlais tout à l'heure de l'importance des stocks, et ça, c'est une chose que l'étude de métabolisme industriel permet de bien mettre en évidence. C'est qu'il y a beaucoup de flux, mais il y a aussi des stocks. Et si vous prenez les métaux, ici en bleu, vous avez la partie pour les différents métaux que vous connaissez, vous avez la partie de métaux qui est déjà extraite de la croûte terrestre, en tout cas par rapport aux réserves connues. Et ça, l'autre partie qui est en grise, c'est celle qui est encore en réserve dans la croûte terrestre. Maintenant, cette partie en bleu, elle n'a pas disparu. Elle est où? Elle est là. Elle est essentiellement dans les murs, avec des quantités de croissance de cuivre, d'aluminium, d'acier, etc. Donc, ça veut dire qu'un des enjeux de plus en plus importants, ça va être l'exploitation non plus des mines naturelles, mais des mines urbaines, des mines artificielles. Ça suppose donc que quand on construit des bâtiments, on les construise avec déjà l'optique d'avoir un cadastre qui nous dit quelle quantité de matières premières se trouve dans quel bâtiment, et puis qu'il soit conçu et construit pour qu'il soit facilement démontable, pour qu'on puisse réutiliser les pièces métalliques notamment, etc. Donc là, il y a un gisement d'innovation que je trouve tout à fait intéressant. Voilà, ça c'était pour toute cette partie, vous donner une idée de ce qui se passe dans la partie analytique. Maintenant, j'en viens à la stratégie opérationnelle. Ça va, du point de vue du temps?
Très bien, d'accord.
Alors, j'ai essayé pour rassembler un peu les idées, de résumer en quelques mots-clés quatre grands axes d'évolution, de restructuration du système économique. De nouveau, ce n'est pas un dogme, c'est une proposition, toutes les suggestions alternatives sont les bienvenues. Jusqu'à maintenant, j'arrive assez bien à tout faire entrer là-dedans. Donc, on pourrait voir ça autrement, mais pas. Moi, c'est une proposition que je fais. La première approche, la première stratégie, c'est tout ce qui tourne autour de l'idée du bouclage. Là, on voit bien qu'il y a un lien direct avec les écosystèmes, puisqu'on sait que les écosystèmes fonctionnent par le biais de flux, de cycles, de flux plus ou moins cycliques. Juste rappeler une chose, le terme économie circulaire, par exemple, est un abus de langage, c'est une image très parlante, elle est très jolie, mais au sens strict, de nouveau, deuxième principe de la thermodynamique, nous n'avons pas de process efficace à 100%, il n'existe pas de flux complètement fermé, de cycle. Donc je préfère l'expression quasi-circulaire, mais bon, ça fait un peu trop académique, alors allons-y pour économie circulaire, tant mieux, ça parle, ça, mais il faut juste être conscient que scientifiquement, ça serait plus juste de parler d'une économie quasi-circulaire ou qui tend vers la circularité. Parce que les processus, les phénomènes naturels eux-mêmes ne sont pas complètement cycliques. Il y a bel et bien des déchets dans la nature. Maintenant, ça dépend à quelle échelle de temps on se place. On peut considérer que le pétrole, c'est un déchet de la biosphère. Simplement, un jour, il y a une autre espèce qui a eu l'idée de commencer à fermer la boucle, à l'utiliser, etc. D'accord. Alors, là aussi, il y a des approches qui permettent de populariser ces notions, notamment dans le milieu de l'entreprise. C'est l'approche du berceau au berceau, cradle to cradle, c'est un peu cette idée. On essaye de gérer une matière première tout son cycle pour qu'en fait on la réutilise et qu'elle reste et qu'elle tourne le plus longtemps possible dans le système économique. Il faut juste faire attention donc au fait que ce n'est pas tout à fait juste, il y a quand même toujours un peu de perte et que par ailleurs, dans certains cas, très souvent du reste, les processus de recyclage sont eux-mêmes des processus polluants qui consomment de l'énergie, qui seront souvent songés au recyclage des déchets électroniques, qui se font dans des conditions tout à fait inacceptables sur le plan sanitaire et social dans les pays en développement, etc. Mais donc, on voit bien qu'il y a cette tendance à essayer, et donc, ce qui est intéressant, c'est tous les nouveaux modèles de business et de management que ça suppose pour concevoir les produits d'une manière à ce que ça soit plus ou moins circulaire. Les recyclages, il y a des choses à dire, mais on va aller assez vite. Et il y a cette idée, alors typique de l'écologie industrielle, qui est de faire des symbioses industrielles. Bon, là, c'est directement inspiré de la biologie, symbiose, coopération, mutuellement bénéfique entre différentes espèces. L'idée ici, c'est d'optimiser la consommation de ressources par des réseaux d'entreprises qui, en général, aujourd'hui, s'ignorent complètement et qui, là, commencent à coopérer, collaborer. On va voir juste rapidement quelques exemples. Mais je vous donne un exemple d'une ressource, à mon avis, dont on ne parle pas assez, particulièrement critique, où on a probablement un problème dans un avenir proche. Et moi, je trouve que c'est plus grave que le pétrole, parce que le pétrole, il y a un substitut. Évidemment, ce ne sera pas facile de passer du pétrole, mais il y a des substituts du pétrole. La ressource dont je parle maintenant, il n'y a pas de substitut. Et puis pourtant, elle est vitale. Elle est absolument vitale. En revanche, elle est recyclable. Je pense que vous avez deviné que je parle du phosphore. S'il y a bien une ressource vitale, alors ça, c'est la biologie. La base du métabolisme cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, qui est basée sur le phosphore. On ne vit pas si on n'a pas du phosphore pour faire fonctionner nos cellules. Donc tous les êtres vivants consomment du phosphore. Et le système industriel se caractérise par le fait qu'il a commencé à puiser, en plus des stocks de phosphore naturels qu'il y a dans l'environnement qui sont faibles, a commencé à puiser des énormes quantités de roches phosphatées pour faire des engrais phosphoazotés qui ont permis de doubler la population de la planète en quelques décennies, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Alors le problème, c'est que ce phosphore, d'abord, les gisements riches, accessibles à des coûts raisonnables, sont en train de s'épuiser assez vite. En plus, ils sont très mal répartis, ces quelques pays. La Chine, qui n'a pas été beaucoup remarquée il y a 3 ans, a mis une taxe de 110% sur l'exportation de son phosphore. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent garder cette ressource pour eux. Donc, avant même que ça s'épuise physiquement, alors on pense qu'il pourrait y avoir un pic de roches phosphatées vers 2030. Il faut prendre ça avec prudence. Mais enfin, on est dans une logique où tôt ou tard, on va arriver à un plateau de production des roches phosphatées. Il y aura des tensions sur le phosphore avant ça. Des tensions de type spéculatif économique. Alors, quand un pays veut empoigner ce problème, et notamment voir si on ne peut pas fermer la boucle, faire du cradle to cradle, mais à partir sur une ressource comme le phosphore, il faut commencer par faire le métabolisme. Alors, je ne sais pas si c'était pour la Belgique, le ministère de l'Environnement en Suisse a fait l'exercice à partir de 2006, alors je suis désolé, ça c'est en allemand, ben, ça c'est le métabolisme, de nouveau cette comptabilité physique du phosphore. La Suisse, comme la Belgique, je pense, dépend totalement des importations pour le phosphore. Deux grandes utilisations, l'utilisation pour le bétail, il y a beaucoup de phosphore directement incorporé dans les aliments pour bétail, et puis tout le phosphore dans les engrais, qui est la base de l'agriculture. Et un peu de phosphore pour l'industrie chimique, mais c'est relativement faible. Alors une fois qu'on a ça, on voit où on peut agir pour essayer d'améliorer la situation. En l'occurrence, ici, une des stratégies les plus intéressantes, ça serait de recycler le pipi. Puisque nous tous, nous excrétons environ 1,5 g par jour de phosphore. Donc il faudra à un moment donné concevoir les bâtiments pour qu'on collecte l'urine à l'échelle par exemple d'un immeuble et puis qu'on en extrait le phosphore et que comme ça on ferme là. Enfin, il y a différentes stratégies, dont celle-là. Donc il y a un toilette no mix, comme il s'appelle, qui a été mis au point par l'Institut de recherche sur les eaux en Suisse. Donc vous voyez que c'est quand même très sophistiqué assez vite, ces stratégies de fermeture de boucle. Naturellement, ça concerne des produits, mais si on se place à l'échelle de ressources critiques comme le phosphore, ça suppose des stratégies à l'échelle notamment nationale qui peuvent vite devenir sophistiquées. Maintenant, une des grandes manières aussi d'économiser le phosphore, ça serait de faire ce qu'on appelle l'agriculture en 3 dimensions, ce qu'on appelle les fermes verticales. C'est-à-dire au lieu de faire de l'agriculture qui dissémine, une fois que vous avez mis des engrais phosphatés sur vos sols, là, d'une part, vous contaminez vos sols avec les métaux lourds, parce qu'il y a toujours un peu de métaux lourds dans les roches phosphatées, puis ben, vous ne pouvez plus le récupérer. Et en plus, vous avez l'eutrophisation des eaux, parce qu'après, ça part dans les rivières. En revanche, si vous concevez des écosystèmes plus ou moins sous contrôle, clos, où là, vous, en principe, vous pouvez travailler en flux fermé, alors évidemment, vous allez diminuer considérablement la consommation de phosphore. Hein. La première ferme verticale, à ma connaissance, a été inaugurée il y a 1 an à Singapour. C'est pas un hasard, c'est à Singapour, évidemment. Et d'après leurs premiers résultats, c'est ce qu'ils ont dit, j'ai pas encore vu de publication scientifique, ils disent qu'ils ont une productivité au moins 5 fois supérieure à une agriculture en 2 dimensions. C'est-à-dire, évidemment, ils consomment beaucoup moins de terrain. En revanche, ils ont une assez bonne productivité parce qu'évidemment, ils consomment moins de pesticides puisque les paramètres sont sous contrôle. Alors ça, c'est un exemple de stratégie de bouclage, en l'occurrence pour le flux, en particulier du phosphore. Maintenant, une des grandes idées de l'écologie industrielle, je vous rassure, je serai beaucoup plus grave sur les autres axes. Hein. Une des grandes spécialités et spécificités, c'est cette idée de réseau éco-industriel ou de symbiose industrielle. Le principe a l'air tout simple, faire coopérer les entreprises pour que notamment les déchets des unes soient des ressources pour les autres. La mise en œuvre, la détection, le suivi, ce n'est pas du tout trivial, mais en revanche, c'est tout à fait imaginable. Donc, il y a cette idée que non seulement les entreprises en interne, en individuel, peuvent optimiser leurs ressources, mais elles peuvent commencer à interagir entre elles pour mutualiser leur approvisionnement, mutualiser leur traitement à la sortie, et même carrément substituer les déchets des uns deviennent une ressource pour les autres. Alors c'est une idée qui a fait son chemin. La Chine notamment a passé une loi sur l'économie circulaire il y a 2 ans. Et dans ce cadre-là, une entreprise maintenant qui utilise et achète un déchet à une autre entreprise comme matière première, au lieu qu'elle achète une matière première vierge, elle paye la moitié de la TVA. Elle paye 8,5% au lieu de 17%. Quand un pays commence à diviser la TVA par 2, c'est que c'est du sérieux. Ce n'est pas juste du blabla. Alors, j'aimerais bien voir l'Union européenne diviser la TVA par 2. Je n'ai pas l'impression que c'est demain. La Chine. Bon, c'est intéressant que ce soit la Chine parce que ça a un impact, évidemment. Ce n'est pas juste un exemple anecdotique. Donc, alors à Genève, on a mis aussi cette idée dans la loi. Donc, l'État encourage et facilite le financement des études de faisabilité pour détecter les synergies entre entreprises pour donc diminuer la quantité de matière d'énergie. Et on va faire aussi cet exercice pour, en l'occurrence, la Wallonie. Ça va faire partie du travail avec le département, le ministère de M. Marco. Pour parler plus spécifiquement business, je vous donne l'exemple de Lafarge. Alors, il y a évidemment des entreprises qui sont assez vite intéressées à ça à partir de la fin des années 90, notamment des 3 grands cimentiers mondiaux, Lafarge, que vous connaissez tous. Alors, eux, leur souci, c'est d'une part de sécuriser leur approvisionnement en matières premières à long terme. Donc, ils sont à la recherche de matières premières de substitution. de diminuer aussi, puisque c'est des gros émetteurs de CO2, d'améliorer leur bilan carbone. Et alors, au fur et à mesure, ils ont commencé à voir où est-ce qu'ils peuvent faire feu de tout bois, c'est-à-dire aller chercher tout, n'importe quel déchet quasiment, et puis les utiliser dans leur cimenterie. Donc, au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait un nouveau métier industriel qui émerge, qui est le métier de transformateur, de producteur de matières premières secondaires, qui consiste à savoir où se trouvent les gisements de différents coproduits, sous-produits et déchets, comment on organise leur identification, comment on organise leur logistique, comment ensuite on fait leur transformation, parce que des fois il faut légèrement les transformer, et puis ensuite comment est-ce qu'on les utilise, il faut qu'ils soient utilisables, etc. Alors pour le moment, ils ont fait ça en interne, ils ont quand même créé une entreprise qui s'appelle Lafarge Industrial Ecology International, ils sont déjà actifs dans 40 pays, et leur seul client pour le moment, c'est Lafarge. Mais à terme, ils pourraient très bien élargir. En tout cas, là, il y a un gisement aussi d'innovation potentielle pour être ces nouveaux acteurs qui vont collecter les matières, les déchets, les coproduits, etc., les transformer en tant que de besoin. Alors, par exemple, ils font ça, ils collectent en Ouganda systématiquement tous les résidus du café, les poches de café, et puis ils alimentent leur cimenterie avec ça au lieu de mettre du pétrole. Mais au Koweït, ils ont un gros mandat avec le gouvernement koweïtien, pour gérer les gigantesques résidus de pétrole de la première guerre du Golfe, quand les troupes de Saddam Hussein avaient mis le feu au puits. Il reste des lagunes gigantesques de pétrole brut, et ils sont en train de... Ils ont trouvé la manière de faire la bonne granulométrie pour injecter ça dans leur four de cimenterie, pour tant qu'il soit utilisé pour quelque chose. Donc vous voyez, suivant les contextes, ça peut être totalement différent de ce qu'on peut faire. En tout cas, toujours est-il, ce que je veux insister sur le fait qu'il y a un gros gisement en termes de business là-derrière, et ça a des implications importantes, à mon avis, en termes de management. Notamment, c'est une autre vision que la vision qui dit il faut se focaliser que sur son produit, puis je regarde que dans mon entreprise. Ici, c'est ce qu'on appelle du management over the fence, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe chez les voisins. Et on est dans des stratégies coopératives. Ça n'empêche pas qu'on soit en compétition. À Rotterdam, où il y a un des grands projets européens de synergie, on avait deux entreprises chimiques tout à fait concurrentes, mais se sont aperçus qu'ils avaient par ailleurs, tout en étant en concurrence sur les produits, ils avaient intérêt à coopérer pour faire de l'air comprimé. Parce que finalement, ce n'est pas leur spécialité, l'air comprimé. Donc, ils se sont associés, ils contractent un tiers qui fait de l'air comprimé de manière plus efficace, avec moins d'énergie, donc moins de facteurs d'électricité, et puis gain pour l'environnement, évidemment. Alors, je conclue avec cette idée de symbiose ou de synergie éco-industrielle, comme on les appelle. On constate que ce n'est pas très facile de les mettre en œuvre, très souvent. Alors, on y arrive, mais ce n'est pas toujours... Alors, on y arrive beaucoup mieux quand on le fait depuis le départ. Mais jusqu'à maintenant, le système économique, et notamment les zones industrielles, n'ont pas été conçues comme ça. Mais en revanche, je travaille maintenant sur une zone industrielle dans le Gujarat, en Inde, pour le programme des Nations Unies pour le développement industriel, où on incorpore cette idée dès le départ. Et on parle d'une zone industrielle de 400 km², et d'une autre de 800 km². Il faut bien voir que le modèle de développement industriel à l'échelle de la planète, c'est celui de la zone industrielle. Alors, si on arrive à mettre ces idées en œuvre à cette échelle-là, ça commence vraiment à faire une différence. Comme quand Lafarge commence à le faire dans 40 pays, on sort de l'anecdotique ou de l'expérimental, si vous voulez. Mais même si on n'arrive pas à faire ça, je pense qu'il y a toute une série de bénéfices collatéraux dans l'exercice qui consiste à mettre en relation tous les acteurs économiques, notamment les entreprises sur un territoire. Parce que c'est très souvent... Alors, les entreprises, elles se connaissent en général dans leur filière. Elles connaissent bien leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Et là, on a déjà des boucles d'optimisation. En revanche, que les cimentiers commencent à s'intéresser à ce que font les bouchers, les abattoirs, que les abattoirs commencent à s'intéresser à ce que font le textile, etc. Alors ça, c'est vraiment nouveau. C'est croisement intersectoriel. Alors, même si on n'arrive pas toujours à faire des synergies, en général, il y a des synergies possibles avec de la vapeur, de la chaleur perdue, de l'eau, des cendres, etc. Même si on n'arrive pas à mettre ces synergies, le simple fait de faire cet exercice de mise en relation de tous les acteurs économiques, souvent ça débouche sur des nouvelles idées, des choses intéressantes, voire la création d'une nouvelle entreprise qui va pouvoir gérer des flux qui avant n'étaient pas valorisés. Comme il y a toujours une composante énergétique en général dans ces symbioses, parce qu'on peut souvent valoriser de la chaleur perdue sous différentes formes, c'est aussi un catalyseur pour cette transition énergétique dont on parle, pour se libérer du carbone fossile. Et puis évidemment, ça suppose de nouveaux métiers. Maintenant, on peut encore aller plus loin. Tout ça, je vous donne des exemples de tout ce qu'il y a derrière l'idée de faire des flux plus ou moins circulaires. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus sophistiqué que uniquement le recyclage au sens courant. C'est les symbioses industrielles, c'est du berceau au berceau, enfin, c'est toute une série de stratégies comme ça. Mais on peut aller encore plus loin. Alors là, on travaille depuis une dizaine d'années avec l'Agence spatiale européenne pour la mission vers Mars. Pourquoi c'est pertinent? Je vous le dis tout de suite. Si vous devez envoyer un équipage pendant 2 ans, et puis que vous voulez le ramener vivant, vous n'aurez pas les moyens de leur donner tout l'air, toute l'eau et toute la nourriture. Parce que chaque kilo en orbite, ça coûte l'équivalent d'un kilo d'or. Donc si on réfléchit un moment, il n'y a qu'une seule solution, c'est de fermer la boucle. Je suis désolé de vous montrer ça juste avant le repas du soir. Mais autrement dit, il faudra faire la nourriture à partir des déchets de l'équipage. Alors, ça peut nous choquer, mais c'est exactement ce qui se passe sur Terre. En réalité, simplement sur Terre, les cycles sont tellement grands, on réalise plus que quand on mange des légumes, soit sous forme de légumes, soit sous forme de légumes concentrés, donc ce qu'on appelle de la viande, ces légumes, ils ont poussé dans du sol, que le sol, c'est le résidu en bonne partie d'organismes qui se sont eux-mêmes décomposés avant, etc., etc. Donc, si on réfléchit, même dans le système technologique le plus sophistiqué que l'on ait fait, qui est le vaisseau spatial, finalement, on n'arrive pas à faire mieux que ce qu'a fait la biosphère, c'est-à-dire de faire des boucles. Alors, le système est assez élégant, sur lequel l'Agence spatiale européenne développe depuis une vingtaine d'années. C'est d'une pierre plusieurs coups. Vous avez différents, donc l'équipage, il est là, il va aux toilettes, il transpire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça va dans un premier réacteur avec des bactéries qui dégradent tout ça. Et ensuite, vous avez d'autres compartiments avec d'autres bactéries qui vont rendre tous ces résidus assimilables par des plantes. Et puis, ces plantes, elles font d'une pierre trois coups, c'est là le génie de la biosphère. C'est que d'une part, ben, elles font de la biomasse pour manger. Donc évidemment, les équipages spatiaux, ils sont plutôt végétariens. Parce qu'il faut 5 kilos de végétal pour faire un... Donc on ne mangera pas du steak tartare tous les jours en allant sur le Mars. Non, ça, on fait des plantes, de la nourriture. Les plantes, en poussant, qu'est-ce qu'elles font? Elles régénèrent l'air. Et puis, par évapotranspiration, elles vont purifier l'eau. Donc ça, c'est un système qui est en train de... qui fonctionne bien déjà. C'est des bioreacteurs. Ça, c'est le labo à Barcelone où ça se passe. Ça, c'est une photo historique, c'est le premier test de salade produit de cette manière. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de la... Est-ce que c'est délicieux ou est-ce que c'est dégueulasse? Là, je vous laisse vos hypothèses. C'est le premier test de salade cosmique. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est que ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système sous très forte contrainte et qui préfigure sans doute ce qui nous attend de plus en plus sur la planète, à savoir qu'on aura des contraintes de plus en plus fortes sur différentes ressources, notamment l'eau, notamment l'énergie, etc. Et l'intérêt de devoir développer des technologies sous très très forte contrainte, qui est l'espace. Alors, je m'intéresse au spatial en tant que tel, mais ici ce qui m'intéresse, c'est les applications terrestres possibles. Ça nous oblige à développer des systèmes beaucoup plus performants, des systèmes de recyclage infiniment plus performants que ce qu'on a aujourd'hui. Ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de recyclage, à mon avis, on est encore au paléolithique. C'est primitif aujourd'hui. On pourra développer des systèmes de recyclage à la fois sur le plan technologique et sur le plan des modèles d'affaires infiniment plus sophistiqués que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ce genre de technologies spatiales sont testées déjà, par exemple dans cette station antarctique, qui est sans doute l'endroit sur Terre qui ressemble le plus à l'espace, tellement c'est hostile. Et là, ben, par exemple, ils ont une boucle de l'eau qui est totalement fermée, etc. Mais vous avez d'autres options. Prenez un avion comme l'Airbus A380, il emporte 600 personnes pour un vol qui dure 15-16 heures. Vous imaginez le coût pour transporter des tonnes et des tonnes d'eau, parce que les gens, ils n'arrêtent pas d'aller se laver le visage, d'aller se laver les mains, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette technologie pour recycler de manière très très efficace l'eau pendant le vol, et donc de diminuer considérablement la quantité d'eau consommée, et donc évidemment la quantité de carburant qu'il faut pour transporter cette eau pendant le vol. Donc vous voyez qu'il y a énormément de retombées possibles de ce genre de technologie. Et puis, là je m'approche bientôt de la conclusion, vous me dites si c'est trop long. Regardez le problème du CO2. Là, je voulais vous montrer un peu tout le spectre quand on parle de fermer la boucle. Ça va depuis des choses assez évidentes jusqu'à des choses de plus en plus sophistiquées. Donc, il y a un gisement d'innovation, j'insiste, absolument considérable. Prenez le problème du CO2. Donc, tout le monde dit c'est un problème, c'est un bruit. D'accord, je suis d'accord, un problème. J'aime bien aussi voir l'aspect tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant là derrière? Qu'est-ce qu'ils font les humains depuis 2 siècles, entre autres choses? Les humains, ils sont en train de construire une mine de carbone dans l'atmosphère. Une mine artificielle, une mine anthropogénique, une mine gazeuse, mais c'est quand même des milliards de tonnes chaque année qui vont dans l'atmosphère. Enfin, c'est pratique les mines gazeuses parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Le minerai, il vient à vous. Hein. Le minerai, c'est le carbone sous forme de CO2. Donc, alors là, on retrouve aussi l'inspiration de la biosphère. Pourquoi pas faire ce que les végétaux ont inventé il y a quelques centaines de millions d'années, quand, à la suite de l'invention par la biosphère de la respiration en présence d'oxygène, le déchet du métabolisme, c'est ce qu'on fait tous en ce moment, c'est qu'on rejette du CO2. Ils ont inventé l'idée de prendre l'énergie solaire pour casser la molécule de CO2 dans l'air et d'en faire de la nourriture, des sucres. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? La réponse est oui, moi je pense qu'on peut faire la même chose. En fait, les technologies sont en train de se développer à vitesse grand V. C'était une idée hérétique il y a encore 10 ans, mais maintenant on voit que ça devient de plus en plus vraisemblable, ça ne se fait pas encore. Il y a des problèmes de coûts financiers et de coûts énergétiques. Ça, c'est une des... Par exemple, on peut avoir des résines, le CO2 s'accroche sur la résine, après on lessive la résine et on récupère le CO2. Mais surtout, c'est là où on entre dans la logique écologique industrielle, au lieu de faire ce qu'on appelle la capture et le stockage du CO2, donc ça concerne la capture du CO2 quand on a des grandes usines qui génèrent beaucoup de CO2, des centrales électriques à charbon, des cimenteries. Puis on va capturer ce CO2 qui est très concentré, très riche, puis on va aller le mettre quelque part dans les structures géologiques. Dans l'idée de l'écologie industrielle, on raisonne différemment. D'abord ici, on s'intéresserait non seulement à ce CO2-là, mais au CO2 qui est là, dans l'air. Donc on peut se mettre partout sur la planète et capter le CO2, si possible en utilisant de l'énergie solaire. Et ensuite, c'est là où les choses intéressantes commencent, ensuite en faire une ressource, des produits à valeur ajoutée. Vous pouvez faire un nombre incroyable de choses avec du CO2. Alors d'abord, le CO2 en tant que molécule a de la valeur, que ce soit dans l'industrie alimentaire, que ce soit comme solvant sous forme supercritique, que ce soit comme matière première pour l'industrie pharmaceutique, pour les polymères, etc. L'idée étant d'en faire des objets qui durent suffisamment longtemps pour que ça ait une capacité de séquestration de carbone d'une part, et puis que ça se fasse, ce soit des procédés industriels à suffisamment grande échelle pour que vraiment ça fasse une différence du point de vue de la concentration atmosphérique. Mais je pense que les aspects les plus intéressants et les plus délicats, ils ne sont pas uniquement techniques. Techniquement, on voit que, d'abord, puisque les végétaux le font, on sait que ça ne viole pas de loi physique ou chimique. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? On a de bonnes raisons de penser que c'est tout à fait faisable. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être les enjeux non technologiques. D'abord, et là, on est en train de lancer une thèse à l'Université de Lausanne là-dessus, à qui appartient le CO2 dans l'air? Maintenant, tant que tout le monde ne dit non, c'est pas moi le CO2, c'est vous, non, c'est un déchet. Non, hein? Alors, évidemment, personne n'est le propriétaire. Hein? Donc maintenant, si on dit attention, on va faire des molécules à très haute valeur ajoutée à partir du CO2 qu'on extrait de l'air, alors là, tout d'un coup, ça va commencer à intéresser beaucoup de monde. Et là, ça va être crucial, cette question de savoir à qui il appartient. Même assez paradoxal, on paye tous des taxes invraisemblables quand on brûle de l'essence dans notre moteur. Une fois que ce CO2 sort de notre moteur, il n'est plus à personne. Bon. Pourquoi il ne serait pas à quelqu'un? Bon. Alors là, il y a des questions intéressantes qui vont se poser. Ensuite, comment on va l'exploiter? C'est quoi le business model? Alors ça, c'est un projet que j'ai commencé à réfléchir il y a une dizaine d'années, que j'appelle la richesse carbonée globale, Global Carbon Wealth, dans le prolongement du Commonwealth, si vous voulez. Ensuite, comment est-ce qu'on va distribuer cette richesse? Il faudra aussi rajouter un article à la Convention internationale sur le climat qui dira qu'on doit maintenir un certain niveau de CO2 dans l'atmosphère, parce qu'on en a besoin de l'effet de serre, de cette quantité, etc. etc. Donc il y a des questions très intéressantes, non seulement techniques sur cette question-là, mais c'est juste pour montrer jusqu'où on peut aller quand on raisonne en termes d'écologie industrielle sur uniquement l'axe bouclé. Alors je vais être très très bref sur les autres, et ça va nous amener à la conclusion. Voilà. Deuxième grand axe, c'est ce que j'appelle étanchéifier, c'est-à-dire arrêter de jeter l'argent et les ressources par les fenêtres. On a énormément de procédés, de produits qui dissipent dans l'environnement, souvent avec un gaspillage et souvent avec des conséquences pour les écosystèmes et l'environnement. Donc ici l'idée, c'est repenser tous les process, tous les produits, pour éviter qu'ils dissipent durant tout leur cycle de vie, et que si on ne peut pas empêcher qu'ils dissipent, c'est le cas des médicaments par exemple, hein, quand on avale un médicament, forcément il va se retrouver dans l'environnement, s'assurer qu'une fois qu'il se retrouve dans l'environnement, il ne soit pas dangereux pour les écosystèmes et pour la santé. Voilà. Ensuite, le troisième, je vais vite, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Donc c'est l'idée de découpler l'activité économique de la consommation de matière et d'énergie. Donc vous voyez par exemple qu'une économie circulaire en tant que telle, ça ne suffit pas. Il faut aussi que la consommation de matière seront diminue. C'est pas parce qu'on est circulaire qu'on est durable, par exemple. Il faut aussi qu'on ait d'eau, il y a d'autres conditions qui sont nécessaires. Alors, pour aller très très vite, prenez un exemple. Ça sera plus parlant, je vais très vite. Vous avez tous été très très inquiets, ou en tout cas vos enfants, de remarquer que la boîte de Nesquik, le chocolat matinal, avait diminué le volume. Mais, je vous rassure, il y a toujours la même quantité de poudre chocolatée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les ingénieurs de Nestlé, en l'occurrence, se sont dit, pourquoi est-ce qu'on doit payer très cher pour des polymères de qualité alimentaire pour faire ces boîtes, pour transporter quoi finalement? De l'air entre les grains. Donc ils ont fait une poudre plus fine, donc moins d'air entre les grains, donc moins de volume. Et donc uniquement pour les boîtes de Nesquik en une année en France, ça fait 300 tonnes de matière économisée. Donc vous voyez le potentiel, là nouveau, vous pouvez regarder tous les produits, tous les services, dire comment on peut faire les mêmes avec moins de matière et conséquemment moins d'énergie. Donc une des grandes idées aussi pour dématérialiser l'économie, c'est ce qu'on appelle en anglais le Product Service System, et ça a des implications très importantes en termes de business model et de management, c'est de ne plus chercher à vendre le produit lui-même, mais à vendre sa fonction. Je n'ai pas besoin d'être le fier propriétaire d'une chaudière à mazout ou à gaz, ce que je veux c'est un service confort thermique chez moi. Tant qu'on me vend la chaudière, on a tout intérêt à ce que j'achète régulièrement une nouvelle chaudière. Si on me vend le service, celui qui me vend le service, il va tout faire pour que la chaudière dure le plus longtemps possible. Et puis génère le meilleur service possible en consommant le moins d'énergie possible. Donc, c'est une stratégie possible de découplage. C'est ce qu'on appelle en anglais le product service system, qu'on traduit malheureusement très mal en français par économie de fonctionnalité. Et puis enfin, le quatrième axe, c'est ce que j'appelle rééquilibrer la diète du système industriel. Si on compare le système économique à un organisme vivant qui consomme des ressources, alors une des grandes caractéristiques du système industriel par rapport aux autres systèmes économiques, c'est qu'il bouffe tout, il est omnivore. Les systèmes économiques traditionnels, ils reposaient sur quelques matières. Nous, on mange tout, et puis en énorme quantité. Et en plus, de la même manière qu'il y a certaines personnes qui mangent trop de sucre ou trop de graisse, le système industriel, il mange trop de carbone fossile, et donc c'est pour ça que la priorité dans cette stratégie de rééquilibrage, c'est le carbone, mais pas seulement. C'est le phosphore, c'est l'azote. On a un problème avec l'azote à cause de l'agriculture industrielle. Le cycle de l'azote est déséquilibré, etc. Donc, je passe vite là-dessus, et je conclue avec les aspects plus, un peu plus philosophiques. Encore 5 minutes, ça va?
Oui.
Ouais, d'accord. On peut encore regarder tout ça, l'évolution du système industriel, sous l'angle de grandes trajectoires technologico-économiques. Alors, typiquement dans la littérature, on trouve quelques grandes périodes. Il y a eu la grande période du début de la révolution industrielle, qui tournait autour du textile, qui a préparé le terrain, donc l'organisation en manufacture, l'organisation du travail, etc. Ensuite, il y a eu la grande révolution du charbon, donc de la vapeur. Ensuite, toute la grande période de l'ingénierie lourde, tout ça s'enchaîne. Hein, et puis, c'est des trajectoires technologiques qui s'accumulent. Mais c'est des groupes de technologies qui sont structurantes à un moment donné. Ensuite, on a eu la grande époque de la production de masse, avec la montée en puissance de la pétrochimie, la construction des réseaux routiers, l'émergence de la terre, etc. Il y a eu une période, la plus récente, qui était la qualité totale, révolution de la qualité totale. C'est-à-dire, on essaye d'optimiser tous les processus. Ça a commencé au Japon dans les années 80 précisément. Maintenant, on pourrait dire que l'écologie industrielle, c'est aussi une manière d'optimiser à l'échelle du système industriel dans son ensemble. Donc, c'est une tentative de faire de la qualité totale à l'échelle de tout le système économique. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est où on est maintenant. Ça, c'est une proposition, ça fait assez chic. On pourrait dire qu'on est maintenant dans la période, dans la grande trajectoire de contrôle intégral réticulaire. Donc, réticulaire, c'est l'adjectif du mot réseau. Puisqu'on en parle maintenant, on voit bien l'importance des réseaux. On ne veut plus des grandes centrales électriques, on veut des smart grids, on veut décentraliser, on veut des réseaux, Internet est un réseau, etc. Bon, il y a toute une série de technologies qui sont en train d'émerger. Mais encore, pour voir un petit peu plus loin, alors en quoi, c'est quoi la suite? Alors je vais vite. Ce dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la convergence NBIC, donc la convergence de tout ce qui relève des nanosciences, des biosciences, des technologies, des sciences de la cognition. Bon, on est ici justement dans l'institut neurocognition et des sciences de l'information. Donc, on ne sait pas très bien ce sur quoi ça va déboucher. Maintenant, si on regarde encore plus loin, il y a ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où l'évolution technologique commence à nous échapper. C'est ce qu'on appelle la singularité, avec cette propriété d'autonomie, qui vient en plus, c'est-à-dire que des objets vont commencer à vraiment manifester une propriété du vivant, c'est-à-dire la capacité de se répliquer eux-mêmes. Alors, on voit qu'on se dirige vers des choses comme ça. Maintenant, il y a différents risques liés à ça. Il y a des risques, évidemment, d'environnement. Il y a des risques militaires, que ça soit utilisé à des fins militaires. Il y a des risques économiques, que ça soit disruptif pour l'économie, que ça induise encore plus de différences sociales. Ou à l'inverse, on pourrait imaginer que ça soit égalisateur du point de vue social. Je vais juste dire deux mots pour terminer sur ce que j'appelle les risques anthropologiques. Moi, je pense qu'associé à l'écologie industrielle, il y a une réflexion qui n'est pas uniquement de nature matérielle, énergétique, même si c'est très important. Mais il y a un autre niveau qui est le niveau des représentations. Parce que les humains, ils se caractérisent par le fait qu'ils ne vivent pas que de matière et d'énergie. Ils vivent d'émotions, de représentations. Et il y a certaines représentations qui sont plus ou moins vivables. Alors il me semble qu'un des grands défis du système industriel, plus exactement de la société industrielle moderne, ou de la société occidentale hypermoderne, ce n'est pas seulement d'être confronté à des problèmes de type environnement, c'est des problèmes anthropologiques de fond. Ça, c'est un bon exemple, c'est un livre, c'est un de ces nombreux livres qui dit que grâce aux nanotechnologies, il n'y aura plus de mort. Je dis que c'est problématique parce que toutes les sociétés ont rêvé de l'immortalité. Il y a une société qui, mais sur le mode civilisateur du mythe, les sociétés industrielles occidentales avancées, elles pensaient au pied de la lettre. Elles disent, non, c'est vrai, c'est fini, on ne va plus mourir. Donc on est quand même assez loin d'Aristote qui définissait l'homme comme étant mortel, mais on prend au pied de la lettre un fantasme de toute puissance. Et je pense que ça induit des effets anthropologiques qui peuvent être destructeurs. Alors, si vous voulez, l'enjeu de l'écologie industrielle, comme de toutes les approches du développement durable, à mon avis, c'est pas seulement la question de savoir est-ce qu'on va léguer à nos enfants une terre qui marche bien, avec de l'eau qui est propre, de l'air qu'on peut respirer, de la biodiversité, mais c'est aussi un système culturel, social, qui fait que les gens qui vont vivre dans ce système industriel perfectionné, ils auront encore envie d'y vivre. C'est-à-dire, ils vont trouver un sens à la vie, etc. Donc, il y a un enjeu anthropologique que je néglige pas du tout, même si ce n'est pas le sujet principal, mais qui est sous-jacent derrière l'idée d'écologie industrielle. Il y a un auteur, je vous le signale, il y a un auteur qui réfléchit beaucoup là-dessus, c'est un juriste français, et un des rares juristes qui, en même temps, s'est beaucoup intéressé au management. Il a beaucoup de publications sur le management. J'ai collaboré à un film, vous trouvez le texte aussi, qui s'appelle Dominium Mundi, l'Empire du Management, qui est une réflexion anthropologique et philosophique sur l'expansion de la pensée occidentale sous la forme du management. Alors, je vais conclure. Il y a un enjeu évidemment majeur derrière l'écologie industrielle, c'est que, par définition même, l'idée même d'écosystème, comme tout système vivant, a ce qu'on appelle une inhibition de la croissance. Et à un moment donné, le système vivant arrête de croître. Il y a des mécanismes qui se mettent en place. Donc, sous-jacent à l'idée d'écologie industrielle, il y a l'idée qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une croissance, en tout cas physique et matérielle, illimitée. Évidemment, ça remet en cause quand même certains des grandes idées de la modernité occidentale. Et donc là, il y a des enjeux philosophiques importants. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci de votre attention.